Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal présenté par Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, 11 personnes sont portées disparues lors du naufrage d'une embarcation sous la rivière Ituri entre Beni et Mambasa. Les infortunés traversaient cette rivière depuis l'effondrement du pont qui relie les deux entités. Une dizaine de personnes ont péri et d'autres grièvement blessées par les engins explosifs ces trois derniers mois lors d'affrontements entre le FRDC et les rebelles du M23 à Nyiragongo, Rutshuru et Masisi au Nord Kivu. Annonce faite ce mardi à Goma par la Synergie pour la lutte contre les mines. Notre invité, c'est le gouverneur de la province du Nord Kivu, en mission à Beni, le général Constant Dima, a parlé de la situation sécuritaire dans la zone en ce moment où se poursuivent les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Madame, messieurs, bonsoir. Drame en Ituri. 11 personnes sont portées disparues lors du naufrage d'une embarcation hier lundi sous la rivière Ituri, sur le tronçon qui va de Beni à Mambasa. Les infortunés traversaient cette rivière depuis l'effondrement du pont qui relie les deux entités. La société civile rappelle que deux véhicules qui transportaient des marchandises ont été engloutis il y a une semaine dans les eaux. Cette structure citoyenne demande par conséquent au gouvernement de réhabiliter au plus vite ce pont. C'est ce que nous explique à Bounia Isaac Remoyopé.
Au moins 17 personnes étaient à bord de la pirogue en planche qui sert pour le transport des passagers des véhicules sur la rivière Ituri. Pendant la traversée, la pirogue n'a pas résisté au courant d'eau et a chaviré. 6 personnes ont été repêchées et 11 se sont noyées et sont portées disparues. Selon la société civile, des dizaines de passagers et leurs biens qui passent chaque jour par cette route courent les risques de se faire noyer à cause des embarcations de fortune qui sont utilisées sur cette rivière depuis l'effondrement du pont. Elle ajoute que c'est la seule route accessible qui relie actuellement la province de à celle du Nord Kivu à cause de l'insécurité due aux exactions des rebelles des ADF sur l'axe Komanda Beni. Cette structure plaide pour la construction d'urgence de ces ponts. Par le gouvernement central, Laura Kea, un activiste des droits de l'homme du territoire de Mambasa.
Des gens viennent de mourir aujourd'hui. Des commerçants viennent de perdre les marchandises. Nous payons beaucoup de taxes. Que le gouvernement congolais puisse répondre urgemment à ses besoins.
Des sources locales déclarent que depuis l'effondrement de ces ponts le 25 février 2023, les travaux de réhabilitation n'ont jamais commencé, ce qui paralyse les activités économiques dans plusieurs centres commerciaux dans la province de l'Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre région, autre drame. Au sud Kivu, 6 personnes ont péri et 60 autres portées disparues lorsque leur embarcation motorisée a chaviré dans les eaux du lac Kivu dimanche soir entre l'île d'Ijui et la ville de Goma. En cause, le non-respect des normes de la navigation. Le récit à Bukavu d'Emmanuel Elmejoa Kabedi.
Des sources concordantes à Ijui confirment cette information de naufrage. Dimanche 2 avril dernier, une embarcation motorisée quitte Ijui pour Goma avec à son bord des passagers et des marchandises. Une forte tempête la surprend aux environs de minuit et la pirogue se casse en deux. Madame Bagaga Zé-Dorcel est présidente de la société civile d'Ijui.
Il y a eu un bote qui quittait Ijui-Mugote vers Goma. La nuit de ce dimanche à 21h, vers 0h, le bote a chaviré vers Ijui-Nord. Les rescapés disent qu'il y avait au moins 150 passagers avec des braises et des cafés. On a retrouvé que 60, dont 6 morts et toutes sont des femmes. Et pour votre information, le bote n'avait aucun document.
Ce énième cas de naufrage sur le lac Kivu résulte du non-respect des mesures interdisant la navigation nocturne. Pas de manifeste officiel, pas de port de gilets de sauvetage par les passagers. L'administrateur des territoires d'Ijui affirme que le commissaire lacustre qui a autorisé cette navigation est introuvable. L'association des armateurs du lac Kivu et le ministère provincial des transports disent attendre d'autres détails et rapports avant de réagir. Emmanuel Lamejoa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au Nord Kivu, le bilan de l'éboulement du week-end dernier dans la localité de Bouloa, territoire de Masisi, est passé de 21 à 25 personnes mortes. Un autre éboulement a fait des victimes cette nuit dans le village de Musenge, secteur d'Osobanyungu. D'autres précisions avec vous, Denise Lukeso.
4 autres corps ont été découverts et retirés de la boue hier lundi après la fouille. Il s'agit d'enfants notamment. Le bilan s'alourdit donc de 21 à 25 morts, rapportent les sources administratives locales. Ces sources parlent d'autres personnes disparues dont les familles organisent déjà les deuils. Les 21 victimes ont été enterrées hier lundi grâce à la prise en charge du député Alexis Baunga. Entre-temps, un nouvel éboulement s'est produit la nuit dernière dans le village Moussengue, voisin à Boulois. Le bilan fait état de 3 morts et un blessé. Les victimes sont les pères d'une famille et ses 2 enfants. Les sources de la société civile indiquent que leur maison, construite en terre battue sous une petite colline, a été ensevelie vers 1h du matin. Les occupants, surpris dans leur profond sommeil, n'ont pu se sauver. Signalons que des pluies s'abattent abondamment ces derniers temps dans le Massissi. Les sols de Massissi, meubles, se déplacent facilement, soit par gravité, soit suite à des pluies torrentielles. Ce qui, très souvent, est à la base de plusieurs éboulements de terre et érosions, parfois avec des gaz importants. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Dans un autre chapitre, la RDC compte actuellement une 30aine de champs de mines, dont 9 au Nord Kivu. Le coordonnateur national de la Synergie pour la lutte contre les mines affirme à Radio Kapi qu'une 10aine de personnes sont mortes et d'autres grièvement blessées par les engins explosifs de guerre qui ont été abandonnés ces 3 derniers mois lors d'affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 dans les territoires de Nyiragongo, de Rutshuru et de Masisi. Mario Ngavo l'a dit ce mardi à Goma lors d'une sensibilisation à l'action contre les mines. Il s'est confié à Denise Lukeso.
Les enquêtes amorcées il y a plus de 10 ans ont trouvé 37 champs de mines en République démocratique du Congo. Autour de 14 ont été déjà déminés. Par rapport aux zones où il y a ces mines, nous avons le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Tanganyika et une partie du Maniema. Dans le Nord Kivu, sur les 37 zones minées, il y a eu 9. 2 seulement ont été déminés à Beni. À côté de ça, nous avons d'autres engins explosifs de guerre liés à tous les combats qui se font dans Rutshuru, Beni, Masisi, Nyiragongo. On retrouve beaucoup de munitions telles que les roquettes, les mortiers, les grenades, qui ont été préparés pour être utilisés, mais qui ont été abandonnés. Et ce, dans les écoles, sur les routes, sur les champs de combat. Et tout ça, ça fait à ceux qui sont des victimes, à toute la communauté humanitaire, de venir en aide aux actions d'élite anti-mine, surtout en cette période où nous avons la guerre dans l'est de la RDC.
Revenons un instant au Nord Kivu où le contingent ougandais de l'EAC a finalement été installé hier lundi après-midi au centre de Bunagana. Des sources locales affirment cependant que le retrait annoncé des rebelles du M23 de cette cité frontalière avec l'Ouganda ne s'est pas totalement achevé. La force régionale de l'EAC indique que le mécanisme de vérification ad hoc issu de la feuille de route de Luanda vérifie encore la situation. Explication de Blaise Shindani Kamala.
Après la base de Kibaya dans l'est de Bunagana, où le contingent ougandais était encore basé, depuis son entrée officielle en RDC dans le cadre de la force régionale de l'EAC, ce n'est qu'hier lundi qu'il a pu s'installer officiellement à sa base au centre de cette cité frontalière. Selon plusieurs sources, la situation de Bunagana reste cependant très confuse. Les militaires ougandais de l'EAC cohabitent contre toute attente avec les rebelles dont le retrait de la cité n'est pas encore effectif. De plus, des sources déplorent la gestion des mouvements migratoires à la douane de Bunagana jusqu'à présent par les rebelles du M23. L'administration civile installée par les rebelles serait toujours à l'œuvre et des militaires du M23 occuperaient les maisons de certains habitants en déplacement après en avoir cassé les portes. Nos sources au sein de l'EACRF confirment l'installation de la base du contingent ougandais à Bunagana. Mais pour la question du retrait du M23, elles affirment attendre le rapport du mécanisme ad hoc de vérifier pour d'autres précisions. Dans l'ouest du territoire de Rutshuru, en groupement Tango, chefferie de Bwito, mais aussi dans les Bachali, territoire de Masisi, une accalmie règne ce mardi. Toutefois, certaines sources accusent les rebelles de former et d'armer certaines milices locales. Cette situation intensifie l'instabilité dans la région où l'on signale encore la présence du M23.
Autre nouvelle sur Radio Okapi dans la Lomami, la route nationale numéro 2 qui relie la ville de Kabinda à celle de Mbujimayi au Kasai oriental est coupée au niveau du village de Musengye situé à près de 34 km de Kabinda. À la base, les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la zone selon le directeur provincial de l'office de route. Une déviation a été aménagée hier par le service de l'État pour faciliter ainsi la circulation des véhicules qui ravitaillent et quotidiennement les deux villes en produits vivriers et manufacturés. À Mbujimayi, c'est une correspondance d'Esther Ndalafina.
Au niveau de Musengye, à 34 km de Kabinda, une tête de ravin a coupé en deux la route nationale numéro 2. Du coup, le passage des véhicules de toutes catégories ainsi que des motocyclistes a été interrompu. Pourtant, cette route permet les échanges commerciaux entre les deux villes. Les véhicules partent de Kabinda avec les produits vivriers et ramènent au retour les produits manufacturés. Aussitôt informé sur la coupure de cette route, le gouverneur de la province de Lomami et les directeurs provinciaux de l'office des routes se sont rendus sur le lieu. Pour faciliter le passage des véhicules, la délégation de l'office des routes a construit une route de déviation. D'après les directeurs provinciaux de l'office des routes, la nationale numéro 2 compte plus de 10 têtes de ravin dans son tronçon Mbujimayi-Kabinda. Ces têtes de ravin restent un danger permanent pour le trafic routier et les échanges commerciaux. Benjamin Dima indique que quelques travaux d'entretien des endroits dégradés de la route sont envisagés pour faciliter le transport des personnes et des biens en attendant le début des travaux de modernisation de la route Mbujimayi-Kabinda prévue à partir du mois de mai prochain avec le financement de la Banque mondiale. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis tout enfant ayant un handicap doit être pris en charge sur le plan psychopédagogique et considéré comme tous les autres enfants valides. Ce plaidoyer est du directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Kwilu, qui a défendu samedi dernier à ce sujet à l'UPN Kinshasa, Université Pédagogique Nationale, sa thèse sur les défis de l'enseignement spécial dans le système éducatif congolais. Denis Oshanga affirme que ce type d'enseignement est inexistant ce jour-ci en RDC, où les enfants concernés sont abandonnés à leur triste sort. Il a dit à Irène Boma.
Nous avons défendu la thèse intitulée « Organisation et défi de l'enseignement spécial dans le système éducatif congolais ». Nous avons juste relevé certains défis parce qu'on a trouvé que les classes spéciales ne sont pas nombreuses à travers la République démocratique du Congo. Bien qu'il y a des textes officiels qui régissent l'enseignement dans notre pays, mais malheureusement, l'enseignement spécial n'est pas pris en compte. Et ces enfants sont vraiment abandonnés. Nous avons pris les enfants qui ont tous les types d'handicap confondu, que ce soit l'handicap visuel, que ce soit l'handicap auditif, physique, ainsi de suite. Tous ces enfants-là ne sont pas vraiment pris en charge. C'est pourquoi on a fait un plaidoyer pour que l'enfant ayant un handicap puisse être pris en charge psychopédagogique, qu'il soit aussi considéré comme les enfants dits valides. C'est ça un peu notre plaidoyer. Nous avons demandé qu'on puisse aussi réduire les frais scolaires au secondaire et que ces enfants puissent bénéficier de la gratuité de l'enseignement tel que stipule l'article 43 de notre Constitution.
Pour la suite du journal sur Radio Okapi, sachez que le président de l'Assemblée provinciale du Congo central exprime sa reconnaissance à l'endroit du président Félix Tshisekedi Tshilombo qui a tenu sa promesse faite aux Kimbanguistes depuis le 6 avril 2021 lors du centenaire de cette église en Kamba. En effet, à la faveur d'une ordonnance, le chef de l'État congolais vient de consacrer le 6 avril une journée chômée et payée en RDC. Jean-Claude Nvouemba parlait d'une journée du combat mené par Simon Kimbangu. Il est au micro de Nana Pleurich Mambou.
L'ordonnance du 6 avril, dorénavant, journée fériée et payée aux combattants, aux soldats Fumu Simon Kimbangu. Car Kimbangu n'est pas n'importe qui. Kimbangu est le premier prophète et le dernier prophète noir que connaît la chrétienté. De cet état de fait, nous sommes reconnaissants vis-à-vis du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir honoré notre ancêtre. Le peuple du Congo entier, de Lubumbashi jusqu'à Mwanda, se réjouit de cette bonne information dorénavant marquée dans les annales de la République démocratique du Congo. Le 6 avril, nous serons tous à Kamba pour commencer à fêter Fumu Kimbangu à travers la République démocratique du Congo.
Actualité internationale.
Le chef adjoint du CICR à Bangui a annoncé ce mardi la libération des 19 militaires centrafricains. Ils avaient été pris en otage le 14 février dernier par des rebelles dans le nord du pays en proie à une guerre civile depuis plusieurs années. Yves Van Loo affirme que sur les 20 militaires pris en otage, il y a plus de deux mois, 19 ont été libérés aujourd'hui et arriveront cet après-midi, donc ce soir, à Birao, où ils vont rester jusqu'à leur retour dans la capitale Bangui. Ils avaient été pris en otage par la coalition des patriotes pour les changements après des violents combats qui avaient occasionné des pertes militaires considérables selon le gouvernement. Donald Trump comparé ce mardi devant un tribunal de Manhattan. Il va se voir notifier à l'occasion les charges exactes qui pèse contre lui dans l'affaire Stormy Daniels, cette ancienne actrice porno à qui il avait payé la somme de 130 000 dollars américains avant la présidentielle de 2016, pour qu'elle cesse d'affirmer qu'ils avaient couché ensemble. Depuis l'annonce de sa mise en examen par la justice américaine, Donald Trump, qui est le premier ancien président inculpé de l'histoire américaine, multiplie actuellement les critiques contre le juge qui va présider l'audience.
L'invité.
Notre invité, c'est le gouverneur de la province du Nord Kivu, en mission à Beni. Le général Constant Dima a parlé de la situation sécuritaire dans la zone en ce moment où se poursuivent les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. Il s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur le lieutenant général Constant Dima, vous êtes le gouverneur de la province du Nord Kivu. Vous venez d'arriver à Beni avec une forte délégation derrière vous. Peut-on savoir l'objectif de votre mission?
D'abord, je viens recevoir le chef d'état-major général qui est annoncé à partir du territoire de Beni dans notre province. Il vient ensemble pour que nous évaluions la situation sécuritaire dans la province, en général et plus particulièrement ici dans le territoire de Beni, avec les opérations conjointes qui sont en cours. Et aussi continuer l'inspection puisque depuis qu'il a pris ses fonctions, il n'est pas encore arrivé ici. Alors il vient, c'est pourquoi je suis venu l'attendre, moi et le commandant 34e région militaire.
Alors monsieur le gouverneur, actuellement comment se porte la situation sécuritaire sur le plan général en province du Nord Kivu?
Non, la situation reste préoccupante avec le déploiement actuel que vous suivez des contingents des forces Est Africa. Nous osons croire que avec ce déploiement, la situation va se déscalader et nous allons voir la suite.
Présentement, quelle appréciation faites-vous des opérations conjointes FARDC-UPDF qui se déroulent dans la région de Beni et même une petite partie de la province de l'Ituri, dans la partie sud du territoire d'Irumu?
Nous saluons le bravoure de nos militaires malgré la situation qu'ils connaissent et l'opération Souja depuis le début qui avait donné beaucoup d'espoir à la population. À un certain moment, la population commençait à se poser beaucoup de questions. Je crois que l'opération Souja s'est refait quand même à surface et nous saluons ses succès dans les Mwalika où plusieurs bastions des ADF ont été démantelés et certains leaders aussi neutralisés. Nous regrettons à ce que les fils et filles aussi du milieu, c'est-à-dire les Congolais qui y font partie, nous ne les disons pas seulement en l'air, mais nous avons des preuves de collaboration avec ceux qui massacrent notre population, ce qui fait très 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 mal. Et nous venons voir tout cela ensemble avec les chefs d'état-major général.
Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuivent dans la région avec beaucoup de difficultés, les centres attaqués, beaucoup de barrières et autres difficultés purement techniques. Mais on parle même des discours de haine et de toxication pendant cette période. Monsieur le gouverneur, quel est votre message pour la population?
Les opérations d'identification et d'enrôlement en cours dans notre province se poursuit. Vous savez, dans le Petit Nord, une partie de notre province est encore sous contrôle de l'ennemi M23 avec ses alliés RDF. Ceux qui sont en déplacement, la CENI a fait un effort de déployer ses instruments, donc le matériel et que l'identification et l'enrôlement en cours. Mais nous déplorons ce qui s'est passé ici au Grand Nord, autour des Béni et aussi à Boutembo. Nos compatriotes se donnent à ce genre de pratiques. C'est-à-dire les groupes armés, les Maïmaï bien sûr, s'attaquent au centre d'enrôlement et aussi aux éléments de sécurité commis pour la protection de ces lieux. C'est ce que nous regrettons. Mais ce que vous faites allusion donc au discours de haine et aussi au discours de démobilisation de nos troupes et autres, c'est dont nous condamnons amèrement et que cela doit cesser. Nous voulons la démocratie, mais le président de la République, chef de l'État, commandant supérieur de nos forces armées, se déploie pour offrir à tout citoyen congolais de s'élire son chef dans la liberté qu'on laisse les autres. Pourquoi mettre encore le bâton dans la roue de la démocratie qui est en marche? C'est ce que nous déplorons et nous condamnons amèrement et que nos frères et sœurs qui se livrent à ces pratiques, et cela doit cesser pour que les opérations d'identification et d'enrôlement aillent jusqu'au bout, pour que chaque citoyen de cette province ait sa carte. C'est à partir de ces cartes-là que nous aurons dans le jour à venir la carte d'identité nationale. Donc on ne doit pas ériger une barrière à cela.
Monsieur le gouverneur, le lieutenant général Constantin, merci.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le gouverneur du Nord Kivu. Le général Constant Dima a été interviewé à Beni où il est arrivé aujourd'hui par Marc Marofimbo. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelé Kipela Mondo.